Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles bien dans la seconde épître de Pierre. On va continuer hein, dans ce que nous avions commencé la dernière fois sur eh bien l'œuvre de Christ en nous, hein, le salut qu'il nous a accordé, et de voir eh bien que Dieu, hein, par la puissance divine de Jésus-Christ, a donné tout ce qu'il faut pour la vie, pour la piété, et que cela implique aussi pour nous, hein, chrétiens, d'être à l'œuvre par rapport à cette grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Hein, le but de cette épître, c'est vraiment de stimuler les chrétiens, eh bien, à croître spirituellement, parce qu'avec cette croissance spirituelle vient aussi la fermeté hein, dans la foi, et avec la fermeté dans la foi, de quoi résister, oui, aux tentations, mais résister aussi, eh bien, aux faux docteurs, hein, aux faux enseignants dont Pierre va parler hein, dans les chapitres suivants. Et pour vraiment, on va dire, résumer un peu cette épître de Pierre, hein, il y a deux versets vers la fin de Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18, qui nous dit: « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Et s'il est vrai que beaucoup de chrétiens hein, apprécient, oui, je veux apprécier encore plus la grâce de Christ, la grâce de Christ, malheureusement, beaucoup restent dans un certain sens ignorants par rapport à la connaissance de Christ lui-même, hein, de tout ce qui est impliqué hein, dans la personne de Christ et dans l'œuvre de Christ. Et donc ce matin, on va regarder au chapitre 1er, hein, les versets 5 à 11, où Pierre nous dit: « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Donc, en lisant ce passage, il y a une évidence hein, qui en sort. Et cette évidence, c'est que Dieu veut que nous ayons une plus grande connaissance de sa personne, de Jésus-Christ, une plus grande connaissance du salut qu'il nous a accordé, de cet appel, de cette vocation, de cette élection hein, que, eh bien, il nous a si gracieusement accordé. Et l'objectif pour nous, eh bien, c'est de pouvoir être ferme, de pouvoir être mature spirituellement. Et donc dans ce passage, c'est ce que je vous invite à regarder, c'est vraiment qu'on continue, qu'on s'applique à persévérer dans notre vocation en Jésus-Christ, cette vocation hein, spirituelle qu'il veut pour nous. Et je crois que la première chose que nous devons comprendre par rapport à ce que Pierre nous dit ici, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité hein, de croître spirituellement. Et cette responsabilité, elle est liée justement à la nature de cette vocation, de cet appel en Jésus-Christ. Hein, l'idée, c'est que, voilà, une fois qu'on a obtenu cette grâce en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de nos péchés, etc., rachetés, hein, nous devenons des enfants par adoption de Dieu, ben, c'est pas une autorisation maintenant que ben, le sang de Christ a tout couvert mes péchés, c'est bon. Hein, je suis sauvé, je peux continuer hein, et me permettre certains péchés dans ma vie. Non, c'est pas ça. Hein, si vous voulez une illustration, et puis j'en parlais avec Damaris un peu dans la voiture aujourd'hui sur un autre sujet, mais souvent c'est ce que nous faisons en tant qu'être humain. On travaille dur pour l'obtention de quelque chose, hein, comme le permis de conduire, comme un diplôme d'études, etc. Ou parfois, hein, les êtres humains aussi, c'est hein, pour séduire quelqu'un et finalement l'épouser, et puis après hein, le mariage, on ne met plus autant d'efforts qu'on en mettait avant hein, pour séduire la personne. Et l'idée, c'est ça. C'est comme si on avait un jeune conducteur, il a fait tous ses efforts pour bien étudier le code de la route, il obtient son permis de conduire, et puis une fois le permis de conduire obtenu, il roule n'importe comment. Il ignore les règles, il dit, je peux me permettre de rouler à 160, pas grave, je m'en fiche des autres, etc. On comprend bien que l'obtention de ce permis n'est pas une autorisation à enfreindre les règles, c'est une autorisation de pouvoir conduire. Et le salut que nous avons en Jésus-Christ, ce n'est pas une autorisation à pouvoir continuer de pécher, loin de là. Parce que on a tellement de passages qui nous montrent que ce que Christ veut, c'est oui, que nous venions à lui tel que nous sommes, mais que nous continuions notre chemin tel que lui il est. Et pour ça implique que, eh bien, on laisse les vieilles habitudes pécheresses, on laisse ces choses-là pour pouvoir continuer à suivre le Christ. Alors, le Seigneur Jésus, quand par exemple, on parlait hier du fait que Jésus est Dieu parce que lui seul peut pardonner, et puis les pharisiens, ils disaient là, oh, qui est-il? Comment osent-ils pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Okay? Dieu nous a pardonné nos péchés, et ce n'est pas une raison pour nous, eh bien, de se dire, maintenant, j'ai l'assurance de mon salut, il n'y a pas de souci, je peux continuer, je peux me permettre certaines choses. Non, ce n'est pas du tout cela l'idée. L'idée pour nous, c'est de bien comprendre cette grâce que nous avons afin de mieux suivre, eh bien, le chemin que Jésus trace devant nous. On ne peut pas et on ne doit pas négliger cette responsabilité-là. Une fois que j'ai eu mon permis de conduire, maintenant je suis responsable de mes faits et gestes au volant. C'est moi qui suis responsable. Ce n'est pas mon épouse à côté de moi, ce n'est pas mes enfants derrière qui vont être pénalisés si je roule au-dessus de la vitesse limite et que je prends une amende, n'est-ce pas? Je suis responsable. Et chacun d'entre nous, nous sommes responsables devant Dieu, d'abord tout être humain responsable devant Dieu, eh bien de se reconnaître pécheur, de confesser ses péchés, de placer sa foi en Jésus-Christ, de se repentir, etc., pour recevoir cette grâce, ce pardon en Jésus-Christ. C'est notre première responsabilité. Mais ensuite, ma responsabilité en tant que chrétien, eh bien c'est de consacrer ma vie à ne plus être ce que j'étais avant, mais à m'identifier toujours plus à Christ. Quand Jésus il a dit, va, ne pèche plus, tes péchés sont pardonnés, va, ne pèche plus, ça implique une responsabilité après le pardon, une responsabilité, eh bien, de suivre cette direction spirituelle, de rejeter le péché dans notre vie. Et donc Pierre il développe dans ce passage cette responsabilité, cette obligation que nous avons par le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et il encourage les lecteurs à progresser dans leur foi et de pouvoir voir les fruits de cela. C'est justement dans la lancée des versets 3 et 4 qu'on a déjà vu, l'apôtre Pierre, il veut que les chrétiens prennent conscience que le salut, c'est le point de départ. Il y a une progression, il y a une maturité spirituelle à avoir. Cette foi initiale, celle du salut, elle n'en est que le fondement. Mais voilà, on a une responsabilité à partir de ce moment-là, eh bien déjà de grandir spirituellement. Ça, c'est notre responsabilité vis-à-vis de Dieu et ça nous concerne nous. Mais après, également, comme Paul nous le montre dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, on a une responsabilité les uns envers les autres. La Bible elle parle de Christ comme étant la pierre angulaire sur laquelle l'Église est construite, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, l'édifice bien élevé s'élève pour être quoi? Un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, on a une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, par rapport à Dieu et notre salut, mais aussi par rapport à nos frères et sœurs, parce que nous sommes une église, nous sommes un corps vivant, et tout dans un corps a une responsabilité envers le reste du corps. Et en gardant donc cette image de construction à l'esprit, Ben, si on l'applique justement à notre échelle, à nous, hein, à la vie du chrétien, du croyant, ben, nous sommes tous appelés, eh bien, à être ceux qui vont poser les briques spirituelles dans notre vie. C'est-à-dire que Dieu, hein, il est le grand architecte, hein, il est le concepteur de notre salut, il est le financier de notre salut, hein, tout comme, eh bien, l'architecte va faire les plans, il va y avoir une personne qui va financer hein, l'ensemble du projet, mais il faut toujours quand même qu'il y ait quelqu'un qui suive les plans et qui mette brique par brique hein, s'il faut pour élever l'édifice. Hein, quand Pierre emploie ce terme hein, d'effort, hein, c'est cette idée de vraiment d'empressement et de diligence et de sérieux, mais aussi d'ardeur dans ce que nous devons faire pour le Seigneur. C'est l'idée de se donner entièrement à cette tâche-là. Mon rôle en tant que maçon, ça va pas être d'aller voir l'architecte et lui dire non, ça va pas. Il est pas architecte. Son rôle, ça va être bah, d'exécuter le plan qu'on lui a confié. Et donc l'appel de Pierre ici dans ce passage, vous le savez, est suivi d'une liste de certaines caractéristiques qui doivent être évidentes dans la vie du chrétien et donc que nous devons poursuivre, que nous devons élever et édifier dans notre vie. Et ces attributs hein, sont nécessaires pour que nous puissions arriver à cette maturité spirituelle que Dieu veut voir dans notre vie. Alors oui, il y en a sept hein, dans ces versets 5 à 7, et cette structure hein, de versets nous montre que il y a un ajout, hein, il y a le verbe joindre. À chaque attribut, il faut en joindre encore un autre. Le mot qui est employé ici, dans le grec, c'est un terme assez intéressant, parce que ça évoque, eh bien, une participation généreuse et coûteuse. C'est-à-dire que on rajoute, on donne, hein, pour que ça puisse aller de l'avant. Dans l'Antiquité, en Grèce, on employait ce terme pour décrire une personne riche, généreuse, un donateur qui finançait, par exemple, des festivals, le théâtre, les choses comme cela. Et donc, il cherchait à financer, mais en même temps, en faisant cela, il n'était pas le seul. Il pouvait y en avoir d'autres. Et l'idée, c'était que les uns et les autres qui participaient financièrement, eh bien, ils cherchaient à surpasser l'autre. Ah, toi, tu as donné tant, moi, je vais donner un peu plus. Hein? Et c'est pas forcément juste cette idée de compétition entre ces deux hommes, mais c'est l'idée d'ajouter encore plus. Et donc, à la lumière de cet appel généreux et coûteux que Dieu nous a adressé en Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire la même chose en coopérant avec lui, hein, pour faire mûrir ce qui a été accordé, hein, de le faire fructifier, de le faire grandir, d'en rajouter encore plus. Et lorsque nous faisons cela, la gloire en revient à lui, parce que c'est lui qui a initié tout ça, c'est lui qui a pourvu tout ça, et nous ne faisons que bien, prendre ce qu'il nous accorde et le mettre ensemble pour que notre vie soit édifiée et que notre vie, notre édifice spirituel à nous, puisse le glorifier et être un exemple pour les autres. Donc Pierre suggère que tous ces attributs, ce sont des qualités à ajouter à notre vie spirituelle, à notre foi. Et cette foi dont il parle ici, c'est cette foi initiale, hein, c'est la foi quand nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Et c'est cette foi qui est là, c'est à ça qu'il nous faut ajouter toutes les autres choses. Et donc, quelles pierres doivent être posées sur ce fondement? Et donc, de manière progressive, bien Pierre donc énumère hein, ses qualités hein, du caractère chrétien dans les versets 5 à 7, et les cinq premières semblent être des caractéristiques qui découlent de la relation avec Dieu, et les deux dernières, c'est plutôt ce qui concerne notre relation les uns avec les autres. Et bon, je vais juste dire ceci, hein, je sais que Philippe a déjà prêché sur ces passages l'année dernière, et je ne vais pas élaborer beaucoup plus hein, sur ces versets, mais de bien comprendre que voilà, cette vertu, c'est cette excellence morale, cette bonté morale, cette connaissance ici, dans le contexte qui est ici, c'est surtout cette sagesse, le discernement que on a besoin dans notre vie spirituelle pour mener une vie vertueuse. La maîtrise de soi, hein, c'est l'application, hein, de cette sagesse, hein, qui va nous amener à prendre des décisions pour faire ou ne pas faire, hein, certaines choses. La patience. Hein, la piété, hein, cette révérence à Dieu, cette dévotion envers Dieu, hein, qui va se manifester par des sentiments, hein, mais aussi des comportements qui sont justes. Hein, Dieu, il veut pas qu'on soit juste des robots qui obéissent mécaniquement. Il veut que ce soit quelque chose qui vienne de notre propre cœur, que nous voulions et que nous désirions la sainteté, que nous désirions marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Et l'obéissance, elle est d'autant plus facile quand déjà c'est notre désir à nous de faire cela, n'est-ce pas? L'amour fraternel, hein, cet amour Philadelphia, cette affection qui se manifeste par des expressions de bonté, de générosité, etc. Et ensuite, il y a cet amour agapé que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? C'est cet amour qui se donne, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour qui ne dépend pas de l'autre, c'est un choix de notre part, c'est cet amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ et qui nous manifeste chaque jour. Donc voilà ces caractéristiques qu'il nous faut développer. Comme je dis, je vais pas élaborer davantage là-dessus, hein, parce qu'on a déjà vu ces choses-là. Mais l'objectif que Pierre veut vraiment nous faire comprendre, c'est que notre foi, notre salut, cette vocation, cette élection, elle doit être visible dans notre vie. Elle doit se manifester dans notre vie. Elle doit produire quelque chose. Et donc après cet appel, avec cette description de ces qualités, requises, Pierre précise, hein, dans les versets 8 et 9, l'objectif de ceux-ci, c'est que nous soyons productifs dans leur foi, dans notre foi. Donc une foi vivante doit être productive. Un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits, il rate son objectif, n'est-ce pas? Oh certes, il peut encore donner de l'ombre l'été, c'est appréciable. Nous, on a un cerisier comme ça. Hein, chaque année, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a des années, il n'y a rien du tout. Des années, waouh, il y a pas mal. Mais le temps qu'on dise, ouais, il y en a pas mal, la moitié a été mangée par les oiseaux. Mais voilà, l'utilité d'un arbre fruitier, c'est de produire du fruit. S'il ne produit pas de fruit du tout, quelle est son utilité? Donc notre foi, elle est vivante. Et parce qu'elle est vivante, elle doit être productive. Et l'affirmation que l'on voit donc au verset 8 indique justement que la poursuite de ces caractéristiques que Pierre vient d'énumérer aura un résultat important pour nous. C'est cette fermeté spirituelle. Hein, de plus être des enfants, hein, emportés par le vent, hein, flottant à tout vent de doctrine, etc. là, mais que nous soyons fermes dans notre foi, que nous soyons fermes dans nos convictions au sujet de ce que la Bible enseigne, au sujet de Dieu lui-même, au sujet de notre salut, au sujet de tout, hein, de notre vie en tant qu'Église, de notre relation les uns avec les autres, la vie de couple, la vie de famille. Toutes ces choses découlent de la parole de Dieu et Dieu veut que nous vivions par elles. Mais le résultat de la poursuite de ces caractéristiques, de cette démonstration d'une foi vivante, ça va être une fermeté. Une fermeté qui va permettre déjà d'avoir du discernement pour dire ce qu'il est en train d'essayer d'enseigner là, c'est pas biblique. C'est ce discernement qui va nous montrer que il y a un danger spirituel. Cette semaine, quelqu'un avait partagé avec moi un article que quelqu'un avait écrit au sujet des églises évangéliques. Et son constat, c'était que, aujourd'hui, c'est devenu synonyme de quelque chose qui ne nous représente plus en tant que chrétien biblique, à cause de toutes les dérives qui sont associées à ce terme. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui, oui, sont évangéliques dans le sens où Ben, leur foi, elle est dans la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu. Leur foi est que l'évangile de Jésus-Christ c'est le seul qui puisse nous mener à Dieu, qui nous sauve. Hein, dans ce sens-là, oui, on reste évangélique, mais à cause du terme et de ce que ça représente aujourd'hui, beaucoup, eh bien, se demandent, est-ce qu'il faut continuer à s'appeler comme cela? J'en parlais avec Damaris, parce que c'est elle qui m'avait montré cet article-là. Et je lui dis, c'est marrant, hein. C'est intéressant. Mon papa, quand il était dans le ministère ici en France, l'église à Thionville, eh bien, avait le titre évangélique dedans. Mais il y a au moins 35 ans de cela, parce que mon père voyait déjà les dérives qui était en train de s'implanter dans le milieu évangélique, il a dit, on va enlever ça de notre nom d'église. Donc certains ont le discernement parce qu'ils ont une connaissance doctrinale et peuvent voir les choses se mettre en place et agir ainsi. D'autres, ça prend des années et de voir finalement le résultat. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et finalement, ils se disent, bah, je ne veux plus être associé à ce terme-là. Cette fermeté spirituelle, c'est ce que Pierre veut que nous ayons, c'est ce que Dieu veut que nous ayons, et c'est pourquoi Pierre, hein, encourage les chrétiens dans ce sens-là d'avoir une connaissance plus profonde de Christ, de ses œuvres, de sa personne. Et cette connaissance de Christ, déjà, elle commence avec, oui, notre conversion, notre salut, mais c'est une connaissance qui se veut être plus profonde, qu'elle doit progresser. Elle ne doit pas s'arrêter à un simple concept intellectuel de oui, je sais qui Jésus est, hein, ce qu'il a accompli, etc. Parce que le fait de comprendre ces choses-là, c'est bien. Mais la Bible nous dit aussi que c'est en croyant du cœur qu'on vient à la repentance. Donc il y a la connaissance, mais il y a aussi ce que on ressent par rapport à Jésus-Christ, par rapport à notre péché, et ce qu'il a à nous offrir. Et donc, cette plus grande connaissance de Christ, c'est ce que nous devons poursuivre. Et je vais vous dire une chose, c'est encore une fois extraordinaire que, oui, c'est notre responsabilité de poser les briques, mais Dieu, il a tout pourvu, n'est-ce pas? C'est par sa divine puissance que nous avons tout ce qu'il nous faut pour la vie, pour la piété. C'est par sa grâce que nous avons ce qu'il nous faut, hein, aujourd'hui encore, pour pouvoir grandir, pour pouvoir mieux connaître le Seigneur et avancer dans notre foi. Et donc ces vertus qui sont énumérées dans ces versets 5 à 7, elle ne doit pas être simplement présente et discernable dans la vie des disciples. Pierre nous dit, faut qu'elle soit abondante. Non seulement on doit pouvoir être capable de regarder un frère, une sœur et de dire, oui, ça, ces caractéristiques-là, elles sont évidentes dans sa vie, mais de voir que ces caractéristiques-là, elles se multiplient, elles grandissent, elles sont abondantes et évidentes. Et donc le résultat de cette abondance, ça va être cette productivité spirituelle dans notre vie qui porte des fruits. Hein, celui qui ne va pas poursuivre avec effort les caractéristiques que Pierre énumère dans les versets 5 à 7, bien Pierre nous dit immanquablement, une telle personne sera oisif et stérile. Oisif pour la connaissance du Seigneur. C'est-à-dire, il ne va pas chercher à faire d'efforts pour mieux connaître le Seigneur. Il ne va pas chercher à faire d'efforts pour mieux comprendre la grâce qu'il a en Jésus-Christ. Il ne va pas faire d'efforts non plus pour croître spirituellement. Et finalement, parce qu'il ne poursuit pas ces choses-là, il ne va rien accomplir pour le Seigneur. Il sera stérile, inutile, il ne produira rien. Et la désobéissance à cet appel que Dieu il a formulé en Jésus-Christ pour nous, eh bien, vient avec des conséquences pour la vie spirituelle. Parce que Pierre, il déclare au verset 9, celui en qui ces choses ne sont point, qu'est-ce qu'il est? Il est aveugle et ne voit pas de loin. Hein, le terme grec ici qui est employé, c'est le mot myope. Hein, moi, je suis myope. J'ai besoin j'ai des portes, des lentilles, hein, j'ai des lunettes aussi, hein, mais j'ai besoin de verres correcteurs parce que je n'arrive pas à voir de loin. Et puis maintenant, avec l'âge, je n'arrive pas à voir de près non plus. Mais ici, il dit, grosso modo, parce qu'ils sont myopes, ben, ils en deviennent vraiment aveugles. Ils ne voient plus. Comment est-ce que ça se fait? Comment cela peut se produire? Bien, le problème, c'est que une telle personne va très certainement être centrée et concentrée sur d'autres objectifs dans sa vie que celui de suivre Christ. Et de suivre Christ, comme on le voit, avec empressement, avec ardeur, avec cette envie sincère de suivre son exemple. Il va être absorbé par d'autres préoccupations, des préoccupations terrestres, hein, ici-bas, si bien qu'elles finissent par ne plus voir clair et être aveugles sur la volonté de Dieu pour leur vie. Et elle ne va pas percevoir non plus sa situation dans son ensemble. Elle va seulement être capable de voir ce qui est juste devant elle. Hein, l'idée, c'est comme si vous aviez un immense tableau. Hein, je sais, j'ai déjà été par exemple au Louvre et dans d'autres musées où il y a d'immenses tableaux. Et imaginons que bon, on a une personne qui se tient voilà à 20-25 centimètres du tableau et elle ne voit que ça du tableau. Et elle est tellement concentrée sur ces choses-là qu'elle rate l'ensemble du tableau. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont comme ça. Ils sont préoccupés sur des choses qui sont juste devant eux. Ils sont préoccupés par les choses de la vie. Pourquoi, à votre avis, le Seigneur Jésus, il a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Pourquoi il nous a dit, en tant que chrétiens, « Ne vous inquiétez de rien ». Pourquoi? Parce que les préoccupations que nous pouvons avoir ici-bas, elles sont temporaires. Et il y a une préoccupation bien plus grande et bien plus importante que nous devons avoir en tant que chrétiens. C'est quoi? Ben, le Seigneur, dans ce même message, un sermon sur la montagne, il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Il nous dit également de chercher des trésors là où la teigne et la rouille n'agissent pas. C'est-à-dire, on doit consacrer notre vie à ce qui arrive après, le ciel. De construire notre vie ici-bas sur l'exemple que Christ nous a donné, eh bien, comme un prélude à ce que Dieu il a pourvu pour nous au ciel. Et la racine du problème pour les chrétiens qui restent préoccupés par les choses terrestres, négligent leur appel, leur vocation spirituelle en Jésus-Christ, eh bien, Pierre nous dit au verset 9, c'est parce qu'ils ont oublié la purification des péchés passés. C'est-à-dire qu'ils ont oublié, ils n'ont plus porté attention à la grâce qu'ils ont reçue en Jésus-Christ d'avoir leurs péchés entièrement, complètement pardonnés par l'œuvre de Christ. Et quand on oublie cela, assez facile d'être préoccupé par plein d'autres choses que de servir le Seigneur. Il y a une intentionnalité à ignorer le fait que Christ est mort pour nos péchés et qu'il nous a pardonné nos péchés. On peut voir ici une description de cette l'origine de ce qui va se manifester plus tard, comme l'apostasie ou le reniement de la foi que Pierre va aborder un peu plus tard. Mais le danger, il est là. Le danger, c'est que si nous ne sommes pas actifs à démontrer notre foi et à la vivre pleinement comme Christ l'a prévu pour nous, on va devenir oisif et stérile. Et à force d'être oisif et stérile, on va finir par ne plus voir, ne plus discerner comme il faut, et finir par rater une vie que Christ avait prévue pour nous. Et c'est terrible, c'est triste. Retenons surtout que notre foi en Jésus-Christ n'a donc pas été conçue pour se limiter à cette expérience initiale de conversion et d'obtention de la grâce de Dieu. Ça a été aussi pour que la foi puisse mûrir, croître et se voir visiblement. Nombreux sont ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ depuis des décennies, des années, mais voilà, la manifestation de cette foi, elle n'est même presque pas discernable dans la vie de ces personnes-là. Et certains, oui, bon, on fait les bonnes choses, on fait ce qui est juste, etc., mais il n'y a pas forcément ce désir qui vient du cœur que je veux faire cela pour honorer le Seigneur. Pas pour obtenir quelque chose de lui, mais vraiment par amour pour lui. Et ce qui va se produire quand on a de telles personnes qui, voilà, n'ajoutent pas à leur foi, de telles personnes qui restent ignorantes de la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, et oublient ces choses-là et finissent par poursuivre des choses qui sont éphémères, qui sont futiles, qui sont vaines, ben, à un moment donné, il y aura un grand questionnement. sur la réalité même de leur foi. Je ne vois pas les résultats dans ma vie. Est-ce que je suis sauvé? Je ne vois pas hein, cette vie que Christ il a dit que j'aurais, que je devrais avoir. Est-ce que je suis sauvé? Et donc ça peut susciter le doute chez une personne, ça peut susciter aussi certaines personnes à cause de ce doute à quoi ça sert de continuer? Visiblement, ça ne marche pas pour moi. Et finissent par s'éloigner du Seigneur et ne plus vivre pour lui. Mais voilà, Dieu veut une chose. Il veut que chacun de ses enfants soit assuré de sa grâce, assuré du salut qu'il a accordé en Jésus-Christ. Et ça, c'est la deuxième chose que nous voyons dans ce passage. C'est que Dieu veut que nous ayons cette certitude, cette assurance par rapport à notre salut, pour que nous soyons fermes, pour que nous soyons inébranlables. Alors comprenez bien que Dieu ne demande pas que l'on mérite notre salut, mais ce que Dieu exige, c'est que ce salut, nous le puissions le démontrer de manière concrète, par nos œuvres, mais aussi que ce soit quelque chose de concret dans notre cœur, dans nos pensées. Et donc au verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, donc l'appel de Dieu au salut, votre élection, l'application du salut, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume, eh bien, le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Donc Pierre, ici, il lance un appel. C'est un appel assez solennel, mais qui est accompagné d'une promesse, et une promesse qui est assez encourageante. Il veut que nous soyons assurés de notre salut. Alors oui, Pierre, il réitère la nécessité pour le croyant de faire des efforts, mais pas des efforts pour obtenir le salut, mais des efforts pour que ce qui a été planté eh bien, puisse produire du fruit. Ça, c'est notre responsabilité. Faites tous vos efforts, appliquez-vous. C'est un impératif que Pierre y donne ici. Et c'est ça notre ordre de mission pour nous. C'est un ordre qui évoque le zèle, qui évoque la diligence, qui évoque qu'on mette notre énergie, hein, notre force dans la poursuite de ces choses. Et dans le terme grec, justement, hein, ce que l'on voit ici dans le verset 10, c'est le même mot que l'on a hein, au verset 5, faites tous vos efforts. Donc qu'est-ce que ça nous montre encore une fois? Nous avons une responsabilité. Dieu a déjà accompli la sienne. Hein, la grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, c'est accompli. Mais nous avons une responsabilité par rapport à ce qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Notez que ce déploiement d'efforts, oui, c'est lié à l'appel, lié à cette élection. Et ces termes, les deux, hein, désignent ce que Dieu a accompli, on va dire, de plus glorieux, hein, pour nous, où il a montré son amour et sa miséricorde envers nous. C'est que Dieu ne nous a pas laissés dans notre péché, ne nous a pas laissés dans notre mort spirituelle, mais il a tout accordé en Jésus-Christ pour ceux qui placent leur foi en lui. Et donc il s'agit pour le chrétien, oui, de mieux comprendre notre salut. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous aider à être fermes dans notre foi. À partir du moment où nous comprenons comment ce salut fonctionne, comment est-ce qu'il nous a été accordé? Où on voit, on comprend, on étudie les détails de toutes ces choses-là, notre foi s'affermit et elle va nous encourager à développer ces caractéristiques que Pierre a mentionnées, à poursuivre l'exemple de Christ pour notre vie. Et donc, afin d'être affermi, d'être assuré, d'être convaincu et de produire du fruit, de ne pas être inutile ni stérile, eh bien, Pierre, il veut qu'on comprenne que notre salut, il est assuré. Et pourquoi est-ce qu'il est assuré? Parce que ce salut, il est entièrement accompli par Dieu. Alors, je sais que ce passage et bien d'autres passages fait l'objet de beaucoup de débats en matière de théologie. Okay? Il y a deux points de vue théologiques sur le salut hein, qui s'affrontent, hein, le calvinisme et l'arminianisme. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je veux juste présenter ou même réitérer pour certains ce que nous croyons ici dans cette église. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. OK? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Non pas Parce que nous optons pour une sorte de neutralité suisse, hein, on ne veut pas mettre un pied hein, dans ce genre de guépier où hein, tout le monde se pique un peu là, ou c'est pas parce que on ne veut pas prendre position par rapport à ces choses-là, par peur de froisser qui que ce soit. Non, bien au contraire, nous avons une position que nous tenons, et c'est une position qui est ferme, c'est qu'on ne se reconnaît pas dans l'un ni l'autre de ces deux schémas. Hein, pour juste mettre les choses, et je vais simplifier, vraiment, vraiment simplifier le plus possible ce que ces deux points de vue suggèrent et avancent, c'est que bon, l'arminianisme, par exemple, va défendre le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a la responsabilité hein, de répondre à l'appel de Dieu, de repentance et saisir la grâce de Dieu. D'accord? Le calvinisme avance que Dieu choisit souverainement ceux qui sont sauvés. Hein, il parle de ses élus, ceux que c'est un choix de Dieu. Et que ces personnes, finalement, n'ont pas d'autre choix que d'être sauvées parce que Dieu les a élus, et c'est ainsi. L'arminianisme, par contre, va croire à la perte du salut. C'est-à-dire que si un chrétien hein, qui a été sauvé, eh bien, il fait quelque chose, il commet un péché, etc., il peut perdre ce salut. Le calvinisme, lui, défend que, bah, une fois sauvé, on est sauvé pour l'éternité. Et moi, et cette église, et notre frère Philippe, on se tient au milieu de ces deux choses. Pourquoi? Parce que nous croyons fermement que Dieu donne le choix. Il y a ce libre arbitre. Nous croyons fermement aussi que le salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ, c'est un salut qui est parfait, qui ne peut pas être perdu. D'accord? Mais je dis ces choses-là pour que mieux aussi nous aider à comprendre un peu ce passage et voir l'importance de ce que Pierre nous dit. Parce que bon, nous, on croit, par exemple, bon, Pierre, dans l'épître précédente, hein, il parle justement que nous avons été élus selon la prescience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, sachant toutes choses d'avance, savait, ou je peux mettre même le terme au présent, parce que Dieu est éternel, il sait qui va accepter et qui rejeter, et sur la base de ça, il les choisit et ils sont élus, d'accord? Pour pratiquer de bonnes œuvres hein, qu'il a préparées d'avance pour nous. Et donc sur la base de cette prescience, oui, hein, Dieu a élu hein, ceux qui que lui savait qu'ils allaient accepter sa grâce, et dans sa souveraineté, il a choisi d'accorder ben, la responsabilité de croire à chaque être humain. C'est le libre arbitre. Bon, encore une fois, on en revient à cette responsabilité que nous avons. Déjà, on a une responsabilité entre les êtres humains par rapport à l'offre gracieuse de Dieu en Jésus-Christ, mais une fois sauvés, on a aussi une responsabilité de vivre en accord avec cette grâce que Dieu nous a accordée. Comprenez-le bien que pour obtenir cette grâce, ce salut en Jésus-Christ, hein, il faut que l'être humain, sous la conviction de l'Esprit Saint, de la parole, eh bien, se repente de ses péchés, reçoive par la foi le Seigneur Jésus-Christ, comprenne que c'est par l'œuvre de Jésus-Christ et uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ que nos péchés sont pardonnés. Comme Paul le dit, ce n'est pas par nos œuvres, hein, afin que personne ne se glorifie. Hein, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Il n'y a que ainsi que Dieu, eh bien, nous choisit, nous devions élus, et que nous sommes pardonnés, justifiés, rachetés, régénérés, sanctifiés et un jour glorifiés, hein, c'est-à-dire finalement hein, l'image que Dieu veut voir en nous de Jésus-Christ, cette image sera complétée. Et donc, parce que cette œuvre dépend de Christ et de lui seul, eh bien, le pécheur qui s'est repenti de ses péchés en plaçant sa foi en Jésus-Christ ne peut pas perdre son salut. Parce que le salut dépend de l'œuvre de Christ, pas des miennes. Et Christ est l'unique garant hein, de notre salut et non pas nos œuvres. Et puisque nous comprenons ainsi hein, la puissance qui est là hein, derrière notre salut, eh bien, aussi puisque nous comprenons hein, que c'est entièrement Dieu hein, qui accomplit le salut, hein, que c'est par son amour, par sa grâce, que son œuvre expiatoire, eh bien, elle est parfaite, elle est entière, que nous vivons par lui. Alors, à ce moment-là, puisque nous avons choisi d'accepter cette grâce, nous devons aussi choisir de vivre en accord avec cette grâce et, comme Pierre le dit, de faire tous nos efforts, de mettre toute notre énergie, de mettre toute notre ardeur, même notre passion à ressembler à Christ. Et donc affermir notre vocation, notre élection. Comment faire? Mais là, le contexte, il indique que ça va être en progressant dans ses vertus. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que on comprend mieux notre salut, au fur et à mesure qu'on s'efforce de suivre Christ et qu'on se dise, je décide aujourd'hui, je vais faire cela. Eh bien, on va rajouter à cet édifice. On va rajouter ces briques spirituelles à notre édifice spirituel, hein, qu'est notre vie en Christ. Et par cela, on va progresser. Ce que Pierre décrit, c'est un engagement actif de la part du chrétien pour démontrer la réalité de ce salut. Alors comprenez bien, ce ne sont pas ces œuvres qui font que nous sommes sauvés. Non, ces œuvres démontrent la réalité de notre salut. C'est la même chose que Jacques dit dans son épître. Montre-moi tes œuvres. Tu peux dire avoir la foi, mais si tes œuvres ne correspondent pas à cette foi, ta foi, elle est vaine. Et c'est pour ça que Pierre dit, si vous avez compris que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, que vous êtes coupable par vos péchés, et que c'est que par la grâce de Dieu, par le sacrifice accompli, par le moyen de la foi, qu'on peut être racheté, pardonné entièrement de nos péchés, si vous avez compris ces choses-là, et que vous avez demandé la grâce de Dieu, que vous avez confessé vos péchés, vous êtes repenti de vos péchés, la Bible dit, vous êtes sauvés. Et à partir de ce moment-là, faites tous vos efforts pour montrer cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sauvé, oui, nous sommes de nouvelles créatures, mais ça ne veut pas dire que automatiquement et radicalement notre vie va être changée et transformée. Parce que nous avons encore des habitudes de vie. C'est pour ça que Paul, hein, il parle souvent aussi de ce vieil homme, de cette vieille nature, hein, qu'il nous faut crucifier, qu'il nous faut nous dépouiller, hein, nous dévêtir pour revêtir Christ. C'est que oui, le salut, c'est un point de départ. Et ce point de départ, ben, nous devons l'employer pour que, eh bien, j'ajoute à notre foi, à ma foi, eh bien, la vertu, et ainsi de suite. Et que ainsi, toujours plus je progresse, et toujours plus je ressemble à Christ dans la vie qu'il a montrée ici-bas. Notre salut n'est pas assuré par une récitation, hein, d'une prière ou quoi que ce soit comme cela. Non, notre assurance du salut, elle est fondée uniquement sur Jésus-Christ. Si aujourd'hui je peux dire oui, je suis assuré de mon salut, c'est parce que je sais que c'est Dieu qui est souverain. Je sais que ce qu'il a promis pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, il l'accomplit. Donc ma foi, elle est en lui, elle n'est pas en moi. Parce que je comprends bien que mes œuvres à moi vont jamais être suffisantes pour que mes péchés soient effacés. Jamais. Mais je vais faire mes efforts dans ce sens-là, dans le but de progresser, dans le but d'être obéissant à Dieu, dans le but de manifester Christ dans ma vie, mais aussi parce que je veux honorer le salut qu'il m'a accordé et glorifier le Seigneur par cela. Et donc ça fait une grosse différence, n'est-ce pas? D'œuvrer non plus pour, ben, j'ai peur de perdre mon salut, donc je vais faire plein de bonnes œuvres pour être sûr que mon salut se maintienne. Non, la Bible est claire, on ne perd pas son salut. Ensuite, le fait que, ben, si je veux, si, il y a une grosse différence entre devoir faire les œuvres et vouloir faire les œuvres. Il y a un devoir, c'est vrai, mais il y a une volonté que nous devons avoir. Et cette volonté, encore une fois, c'est pas pour obtenir une faveur de la part de Dieu. C'est une volonté de notre part de vouloir l'honorer et le glorifier. Et apparemment, bon, ces faux docteurs dont Pierre va aborder, hein, un peu plus tard, apparemment, ils se vantaient de leur appel, de leur élection, et ils utilisaient cette vérité comme un prétexte pour vivre sans retenue. Ah, oh, ben, je suis sauvé, de toute façon, c'est pas grave si je fais ça, si je me comporte comme ceci. Et malheureusement, beaucoup de croyants aujourd'hui, ils vivent leur foi chrétienne de la même manière. C'est-à-dire, ils comprennent la doctrine du salut, que c'est en Christ et en lui seul, et qu'il m'a sauvé et rien ne peut m'arracher au salut que Christ m'a accordé. Et ils se disent, bah, c'est bon, je suis tranquille. Hein, comme bah, le jeune conducteur qui obtient son permis, bah, c'est j'ai mon permis maintenant. N'est-ce pas? Non. Nous avons besoin de progresser, oui, pour ressembler à Christ, pour l'honorer, pour que nous puissions être affermis dans notre foi. Et il s'agit donc pour nous de cultiver cela dans notre vie, de cultiver par Je veux, je désire faire ses œuvres pour honorer le Seigneur. Et je vais joindre à ma foi la vertu, etc., etc. Comme Jésus l'avait dit à la femme adultère, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ce n'est pas une carte blanche, le pardon de Christ. Il y a cette responsabilité, ne pêche plus. Et la promesse que nous avons en Jésus-Christ par la suite, c'est que, effectivement, notre entrée au ciel, elle est assurée. Pourquoi? Parce qu'on a une foi qui est réelle, qui est démontrée par les œuvres. Et ça, c'est ce qui nous donne cette assurance, cette confiance que bah, Christ m'a sauvé, j'ai ce désir de vouloir faire ces choses pour lui. Et Pierre, il exhorte donc à rester ferme hein, par rapport aux erreurs doctrinales qui fleurissaient tout autour de ces chrétiens. Mais voilà, à la fin du verset 10, et même dans l'entier verset 11, on a cette merveilleuse et double promesse qui est faite aux chrétiens, qui confirme cet appel, cette élection, par une croissance spirituelle, hein, qui est ce gage de cette assurance dans leur salut. Il dit, si vous faites ces choses, vous ne broncherez jamais. C'est-à-dire que vous ne tomberez pas. Ça ne va pas vous empêcher d'arriver à la destination finale, c'est-à-dire le royaume éternel. Donc Pierre décrit pas ici un salut par les œuvres, il décrit ce salut qui produit des œuvres, qui affermit la foi du chrétien, qui donne l'assurance du salut. Et sur la base de tout ceci, ben, l'entrée au ciel sera largement accordée, non pas à cause des œuvres, mais à cause du salut en Jésus-Christ, qui veut que nous produisions des œuvres, et notre croissance spirituelle va se manifester à travers cela. Et ça sera l'évidence pour nous. L'évidence que, oui, ma foi, elle est ancrée en Christ. J'ai ce désir, comme Paul. On peut avoir le désir, mais parfois, notre chair, elle est quand même là et elle nous embête, hein. Mais d'avoir ce désir et de faire les efforts pour produire ses fruits. Ça, c'est pas ça qui nous dit que, oui, bah, t'es sauvé, c'est bon, mais c'est ce qui nous donne à nous cette assurance et cette fermeté, hein, face aux doutes que nous pourrions avoir. Et sans le salut, il nous est de toute façon impossible d'accomplir les bonnes œuvres spirituelles que Dieu a préparées d'avance pour ses élus. Comprenez bien cela. Certains peuvent essayer d'imiter, de parodier ces choses, mais seule une personne vraiment née de nouveau et qui progresse spirituellement va manifester ses œuvres spirituelles. Et donc on peut, l'image avec laquelle Pierre y conclut un peu ce passage, c'est que, bah, comme un peu aux Jeux Olympiques, hein, quand vous avez celui qui a gagné la médaille d'or, qui revient au pays avec sa médaille d'or, il y a une grande parade, il y a une foule immense qui l'accueille, qui se réjouit avec lui, un peu c'est la fête, etc. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que nous sommes sauvés par la grâce de Christ, produisons donc les œuvres, mettons-y tous nos efforts pour honorer cette grâce. Et ce qui va nous encourager à cela, c'est qu'on sait qu'en faisant cela, en vivant comme cela, bon, déjà, la grâce de Christ, c'est ce qui nous permet d'entrer au ciel. Mais les œuvres auxquelles il nous a appelés, lorsque nous pratiquons ces œuvres-là, ben, au ciel, c'est ce qui va glorifier encore plus Dieu. Hein, et ça pourrait faire l'objet encore d'une autre prédication, de parler de toutes les récompenses et les couronnes que Dieu a préparées pour ses fidèles serviteurs. Mais comprenons bien que nous avons cette responsabilité devant lui d'honorer la grâce qu'il nous a accordée. Et en associant ces deux choses, non seulement on est assuré d'aller au ciel, mais aussi on a cette assurance que nous-mêmes, nous serons honorés par Christ. Hein, cette idée de bon et fidèle serviteur. Alors qu'est-ce qui, dans notre vie, témoigne que bah, nous sommes devenus participants à la nature divine? Qu'est-ce qui montre dans notre vie que nous sommes une nouvelle création en Christ? Et la question que nous devons tous nous poser, c'est est-ce que je suis un chrétien oisif ou un chrétien productif? Est-ce que je suis un chrétien qui est ferme, fermement attaché à la grâce de Christ et ce qu'il a prévu pour moi? Ou est-ce que je suis aveugle à tout ce qu'il a fait pour moi et je me contente à juste être présent et attendre que ça se passe. Mais une chose est certaine. Peut-être que si aujourd'hui vous avez des doutes par rapport à votre salut, demandez-vous, est-ce que j'essaie d'obtenir ce salut par mes œuvres? Si c'est le cas, il y a un problème. Si vous avez des doutes, parce que bah, moi, il n'y a rien d'évident dans ma vie, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment fait tous les efforts en vous appuyant sur la puissance que Dieu accorde en Jésus-Christ pour accomplir ces choses-là, pour renoncer au péché, pour renoncer aux convoitises? Est-ce qu'on a fait ces efforts-là? Alors forcément, si on ne fait pas ces efforts, on ne va pas voir les résultats. Hein, c'est comme quelqu'un qui se dit comme objectif, je vais perdre du poids cette année, je sais que je dois perdre du poids, je veux perdre du poids, mais je ne fais pas ce qu'il faut pour perdre du poids. Qu'est-ce qui va se passer? Aucun résultat. Mais si vous avez aujourd'hui des doutes, c'est peut-être le moment de vous demander, est-ce que je crois en l'œuvre de Christ et en l'œuvre de Christ seulement, ou je pense que par mes petites œuvres, je vais pouvoir obtenir quelque chose? Ou bien vous êtes simplement des chrétiens qui restent quelque part désobéissants, qui ne cherchent pas à mettre en pratique l'enseignement de la parole de Dieu, qui se contentent d'attendre. Il y a un danger. Le danger spirituel que Pierre il énumère ici dans ce passage, c'est que très vite, on se fait happer par les pensées du monde, on se fait happer par le péché, par les convoitises, et on dévie. Et on finit par être encore moins productif. C'est-à-dire qu'un chrétien qui même n'est pas productif hein, dans une assemblée, dans sa vie chrétienne, il a quand même ce témoignage qui va dire aux autres, je suis chrétien, etc., je vais à l'église. Mais quand les doutes par rapport à son salut, parce qu'il ne voit pas lui-même les effets de son salut dans sa vie, ben, il finit par s'éloigner complètement. Et alors là, sa vie, à ce moment-là, le témoignage qu'elle va donner, c'est tout le contraire de ce que le témoignage d'un chrétien doit être. Et ils finissent par vivre comme les pécheurs. Ils finissent par continuer de vivre comme ils étaient autrefois. Alors on pourrait rentrer dans le débat, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés ou pas sauvés, etc. Je vais dire une chose, Dieu seul sait. Dieu seul connaît le cœur. Nous, on peut voir des progrès, on peut voir des évidences. Et on croit quand une personne nous dit, oui, moi je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé. Hein, et c'est une preuve d'amour de façon que de ne pas soupçonner le mal. Mais Dieu seul connaît les cœurs. Et vous seul connaissez où vous en êtes dans votre vie par rapport au Seigneur. Et donc c'est votre responsabilité, la responsabilité de chacun, de s'assurer par rapport à son salut, de s'assurer par rapport à ce qu'il est en train de faire pour le Seigneur. Prions.